Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir discuter largement. Je vais passer bien sûr la parole à la salle. Je vais faire une ou deux remarques. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de références explicites et implicites dans ce que tu as dit. Il y a beaucoup de travaux derrière ce que tu évoquais. Alors, et c'est bien d'ailleurs qu'on perçoive ça, parce qu'on voit quand même que l'effort actuellement pour penser la spécificité de l'époque est quasi général, hein, dans tous les domaines. Il y a la psychanalyse, il y a la santé mentale, mais il y a l'économie, il y a partout. Alors, bon, évidemment, les psychanalystes amènent leur petite pierre, qui n'est pas d'ailleurs, il n'y a pas qu'une pierre chez les psychanalystes, hein, ils ont chacun la leur. Sur la question, par exemple, du symbolique que tu évoquais, le symbolique n'a jamais été robuste. Je suis tout à fait prête à aller dans cette direction, mais nous savons bien que nous avons des psychanalystes, en tout cas, je ne sais pas en Angleterre, mais en France, qui en tiennent pour le symbolique a été robuste, il faut s'y accrocher, voire le ramener. Hein. Bon, alors, une petite remarque sur le rester vivant que tu as présenté, au fond, comme une sorte d'impératif actuel. Je me disais, c'est quand même plus quelque chose qui vient de la science que du capitalisme proprement dit. Bien sûr, le capitalisme suppose la science, ça va de soi, mais c'est quand même beaucoup les progrès de la biologie, de la médecine biologique qui pousse à ça, avec les délires de non seulement rester vivant, mais peut-être, à défaut d'être éternel, 150 ans, on pourrait y penser, des choses comme ça, enfin, cette folie, en quelque sorte. De même, j'étais, en t'écoutant sur ce que tu disais sur la liberté, comment tout se retourne, en fait. Là où on croit qu'il y a du choix, c'est de la contrainte. Là où on se croit surveillé, on est content qu'il y ait un autre. Et quand il n'y a pas de surveillance...
Plus ou moins,
oui. Ça me rappelait le texte de Lacan, qui est quand même assez tôt, quand il parle, c'est dans quel texte? C'est à la fin de Fonction et champ de la parole et du langage, quand, parlant de l'idéologie de la liberté, il le situe comme un délire collectif. Et on y est alors actuellement complètement en plein. Alors, pour terminer avec mes remarques, hein, juste pour vous laisser le temps de questionner Dariane, cette histoire des mains, qu'est-ce qu'on fait avec ses mains? Oui, on peut faire beaucoup de choses, mais je me suis toujours demandé, moi, pourquoi Lacan n'a pas fait plus de place au corps fonctionnel, parce que les mains, c'est du corps fonctionnel d'une certaine façon. Et Lacan, si on prend la théorie du corps chez Lacan, on a d'un côté l'affirmation, c'est d'abord la forme, c'est l'image, et il tient là-dessus jusqu'au terme, hein, de son enseignement, jusqu'au bout du nœud borroméen, le corps c'est l'imaginaire, c'est la forme, avec l'affirmation que c'est par la forme que le corps s'introduit dans l'économie de la jouissance, comme il dit. Bon. Donc il y a le corps fonctionnel, il y a le corps image. Quand il introduit le registre un peu de la jouissance vivante, il dit que le corps en est habité, mais y est étranger, explicitement. Et il y a un corps dont il ne parle pas. Enfin, il parle du corps vidé de jouissance, le désert de jouissance, bon, je résume. Mais il y a un corps dont il ne parle jamais, c'est le corps fonctionnel, qui n'est pas de l'organisme. Le corps fonctionnel, c'est pas de l'organisme, puisque le corps fonctionnel, il a été dressé par la civilisation. C'est le corps, je dis, civilisé. Bon. Donc, il est bien en quelque sorte formaté par l'éducation, par le discours, disons. Bon. Mais le corps fonctionnel, c'est-à-dire le corps dont on se sert pour une fonction précise, où est la place de ça dans l'enseignement de Lacan? Alors tu poses la question avec les mains. Bon, évidemment, c'est plus... On ne la poserait pas avec les pieds, parce que, quoique les pieds ont une fonction aussi, quand on pense avec ses pieds, comme dit Lacan, c'est-à-dire qu'on fraye avec ses pieds, mais il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas, c'était une idée là-dessus, je ne vois pas chez Lacan de développement qui permette de s'approcher du corps fonctionnel, qui est quand même très très important dans la vie quotidienne. Prise par la main comme objet avec Hermann. Bon, je ne connais pas cette discussion. Mais
qui c'est Hermann ou Lacan qui a proposé ça? D'accord.
Bon, c'est une amusette.
Ça n'est pas écrit. Ça n'est pas enregistré.
Tu as raison, c'est
oui, d'accord. D'accord. Oui, oui.
Oui, oui. J'ai, la théorie de Hermann, c'est intéressant, mais bon. Il commence avec une comparaison entre les singes et les êtres humains. Et puis, bon, c'est pas très rigoureux, évidemment, au niveau d'une théorie. Mais quand même, il voit le rapport des corps entre mère et enfant. Il montre que quand l'enfant est au sein, il utilise ses mains. Donc, il y a quelque chose là.
C'est un réflexe en plus du bébé.
Oui, c'est un réflexe, mais ce réflexe va disparaître après quelques mois.
Oui, oui.
Donc, mais il y a quelques références dans des textes de Lacan dans les années 40, les années 30, pas très développés. Il cite Mars sur les techniques du corps.
Oui, oui.
Et dans le stade du miroir, il parle des gestes de l'enfant par rapport à l'image.
Oui. Donc,
mais il n'y a pas vraiment une théorie. Mais il y a des indices.
Oui.
Par rapport à science et capitalisme, c'est intéressant que on peut les opposer, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est le travail scientifique est formé par le capitalisme, que si on a un projet de recherche scientifique, on ne peut pas avoir les fonds que si on peut démontrer un usage. Ça, c'est absolument nouveau.
Oui. C'est le problème de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, ça, oui.
Et ça se voit même dans l'art. Si on veut faire une sculpture publique, on va demander, mais quelle va être l'utilité de ça? Bon, on peut répondre, mais quels seront les effets de la sculpture publique? Qu'est-ce que ça va produire exactement? Ça va être quelle utilité sociale? Si on peut répondre à toutes ces questions, peut-être les fonds vont venir. Donc, et au niveau scientifique, et au niveau artistique, culturel. C'est l'idée que le savoir doit avoir une utilité sur le marché.
Oui, oui. En fait, moi, j'aurais une question. Alors, je t'ai bien suivi sur l'ensemble et sur la critique. D'abord, la critique que tu fais des commentaires, des commentaires réitérés sur le capitalisme où reviennent toujours les mêmes anciennes, en quelque sorte. Bon. Et sur le fait qu'en effet, les gadgets, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, l'aspiration à la jouissance. Ça me paraît tout à fait certain. Alors, au fond, tu as une jolie formule. Tu as parlé le sujet comme refus de l'interpellation. C'est-à-dire, le sujet défini, au fond, comme ce qui ne rentre pas dans les identifications par l'autre, c'est ça. Hein, le fait qu'il y a un noyau du sujet qui qui n'est pas déterminée par l'autre, malgré toute l'enveloppe des pressions, à la fois imaginaires, langagières, symboliques, etc. C'est une jolie expression, parce que je ne l'avais jamais entendue formuler comme ça. Et en même temps, ça, je peux le rattacher à beaucoup de textes, effectivement, sur qu'est-ce que c'est est-ce barré chez Lacan. Hein, c'est un sujet qui est refus de l'interpellation, bon, ou hors interpellation, si on veut. Alors ça, je vois très bien. Mais alors, les pulsions, après, tu es revenu sur les pulsions, et j'ai moins saisi. Quelle est ton idée sur les pulsions? Il faut les repenser? Il faut les prendre comme Lacan les a...
J'ai pas oui. Des réponses, mais oui. c'est quelque chose qui j'essaie de répondre ça un peu. C'est le fait que quand on parle de pulsion, normalement, on ne fait que répéter ce qu'on trouve dans le texte de Freud et les quatre conseils, qu'il y a quatre éléments de la pulsion, on répète ça sans cesse. Oui. Sans vraiment penser, et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le texte de Freud où, bon, ces exemples sont la pulsion scopique, pourquoi pas, et puis sadisme, masochisme, qui évidemment n'est pas une pulsion.
Oui.
Donc, si on prend
Freud, cette partie. Freud le situe comme pulsion, quand même, dans certains textes.
Oui, oui,
Lacan, non.
Oui,
oui. Lacan ne retient que comme pulsion que celles qui sont branchées sur les zones érogènes,
oui, oui,
hein, les trous du corps.
Oui.
Sadisme, masochisme, il ne...
Mais on peut les brancher sur les zones érogènes si on suit Freud que c'est la musculature et pas nécessairement les trous.
Oui, oui. Sadisme, donc, masochisme, oui.
Et
oui.
Ça revient un peu à la question qu'avait posée Hermann, qui avait essayé d'élaborer une théorie d'une pulsion qui n'était pas construite autour d'un trou dans le corps.
La pulsion d'emprise, qui c'est qui a formulé la pulsion d'emprise?
Oui, c'est
Hermann. Oui, 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 oui. J'avais un doute tout à coup, c'est bien.
Il y a une occurrence chez Freud.
Oui, oui.
En plus, même la référence de Freud, je ne sais même pas s'il n'est pas d'après Hermann. Parce qu'Hermann, il ne faut pas oublier qu'il a fonctionné très tôt.
Oui.
Mais
oui.
J'ai pas une théorie oui. Pour expliquer ça, mais
oui,
c'est une
d'accord, question. Oui. Oui, c'est vrai. Par exemple, je pensais à ça sur la. Tu l'as évoqué aussi, la constance de la poussée dans la pulsion que Freud affirme. Hein. Lacan en a fait grand cas, puisqu'il le prend au fond comme vraiment la preuve que la pulsion, ça n'est pas le besoin. C'est une transformation du besoin sous l'effet de la demande, bon, tout ce qu'on connaît bien. Alors, si on se demande cette poussée constante, comment ça se traduit concrètement, cliniquement, parce que prenons les choses précisément, le voyeur, il n'est pas toujours en activité de voyeur. Hein. La poussée constante ne peut pas être une constance temporelle. Au sens de le voyeur est toujours en train de zioter. Il peut zioter beaucoup plus qu'un autre, mais enfin, bon. Alors, comment ça se traduit? La seule réponse que j'ai jamais trouvée à ça, mais qui n'est pas totalement satisfaisante, c'est que la pulsion n'est pas seulement activité. Si on cherche à illustrer la constance de la pulsion par l'activité pulsionnelle, on n'y arrive pas. Parce que, bon. Alors, on peut réintroduire de la constance si on tient compte du fait que la pulsion se métonymise. Qu'elle se métonymise dans le langage. Alors là, on peut trouver déjà, si ce n'est de la constance, en tout cas une continuité. Ça, c'est la seule idée que j'ai là-dessus. Sinon, la poussée, effectivement, c'est la constance. La poussée constante est une question dans la pulsion. Mais en fait, ton idée sous-jacente, c'était quand même que le sujet comme refus de l'interpellation n'a pas bougé, pas de nouvelle subjectivité, et si je comprends bien, que les pulsions sont toujours là. Même oui. si pour nous, même si pour nous, il y a des problèmes dans la conceptualisation entre Freud et Lacan. Hein. Donc c'est ça que tu soutiens. Bah. D'accord. Bon, je vais passer la parole à la salle pour ceux qui veulent. Oui, bien sûr. Ah, pardon, j'aurais dû y penser plus tôt.
Il y a beaucoup de choses que vous avez apportées. Je vais m'arrêter sur un point. Ce que vous avez abordé par la surveillance globale, que nous permettent maintenant les objets pointus de la technologie, c'est-à-dire qu'on est tous surveillés, écoutés, qu'on proteste, mais que quand on ne l'est pas suffisamment, on s'en inquiète. C'est ce que vous avez illustré par la disparition de cet avion. Finalement, vous laissez entendre qu'il y a quand même une aspiration à ça.
Plutôt, si on est surveillé, c'est mauvais, mais si on n'est pas surveillé, c'est pire.
C'est pire, c'est ça, oui. Donc, alors effectivement, on proteste.
Ah, pour c'est, tout le monde, mais pour...
C'est l'actualité. La NSA va se voir un peu bridée. En France, on a un débat sur la question. Mais bon, tout ça va continuer. On sait aussi que la France participe aux écoutes des Américains et que derrière, il y a une globalité de ce monde qui nous surveille, donc cette grande hôte qui nous surveille, donc à notre insu. Et puis il y a ce qu'on donne nous à voir sur ce qu'on est et ce qu'on offre de façon publique sur les réseaux et sur Internet. Et donc, ce qui quand même aboutit, il semble, à une sorte de disparition du registre de l'intime et du privé. L'intime est quand même quelque chose qui tend à disparaître. Les hommes politiques ne peuvent plus avoir de conversation out of the record, puisqu'ils sont toujours, finalement, soit filmés, soit enregistrés. C'est quand même des phénomènes nouveaux. Chez les adolescents, les scènes sexuelles se retrouvent sur Internet. Donc il y a quand même quelque chose de changé qui va rester dans l'évolution de la société là-dessus. Alors vous dites pas de nouvelle subjectivité, mais est-ce que quand même cette modification dans cette idée de l'intime et du privé qui est en train de se dissoudre à une vitesse grand V n'introduit quand même pas quelque chose de... Alors c'est peut-être pas une modification... une nouvelle subjectivité, mais en tout cas, ça induit quand même à une modification dans les rapports des sujets à leur propre intimité.
Oui, peut-être, mais je suis tout à fait d'accord. C'était l'idée de Foucault. Il a prévu ça il y a longtemps. Mais la question, c'est, bon, on peut constater ça maintenant et l'expliquer par rapport à ces changements. Mais si on pense à la société il y a 300 ans ou 400 ans, si on lit ce que disaient des gens à l'époque, si on regarde un peu ce qui reste comme matériel, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas ce problème?
Pourrait-on le dire, c'est la question.
On risque de construire un temps dans le passé où il avait une place... Bien fait pour l'intimité.
La surveillance sociale dans les sociétés
du 18e siècle,
on croit qu'il n'y avait pas de surveillance, c'était terrible.
Au 18e siècle, chaque mouvement que faisaient des gens à la maison et en public était surveillé.
Il y a une exposition en ce moment au musée Marmottan qui s'appelle La toilette ou la naissance de l'intime. Donc, je te conseille d'aller la voir si Patrick, mais tu l'as vu, Patrick. Mais on voit bien comment, effectivement, la toilette et l'intime naissent au moyen, après le moyen, au moment du Moyen-Âge où les bains publics disparaissent parce qu'ils brûlent. Et donc, du temps des Romains, comme jusqu'au Moyen-Âge, il y avait des bains publics. Et puis, il y a un moment où il ne va plus avoir de bains publics, où l'eau va être considérée comme néfaste, et on se fait sa toilette avec un linge sec, et puis il va avoir toute la représentation iconographique des femmes à leur toilette, qui sont essentiellement la parure. Mais ce qui est très frappant, c'est que les artistes cessent de représenter. Donc il y a la grande période après, des impressionnistes, Bonnard, les femmes au tube. Et puis ça s'arrête dans les années 60. Alors là, il n'y a aucune explication par le commissaire de l'exposition, mais c'est très frappant de voir qu'il y a un moment où l'intime, où la représentation de l'intime cesse d'intéresser, en tout cas, les artistes. C'était juste à propos de cette...
Oui, non, vas-y, je peux parler après, vas-y.
Je me disais quand même, il faudrait situer ce qu'on appelait le privé par rapport au sujet hors interpellation. Parce que c'est pas du tout la même chose. Le privé, c'était une répartition au fond dans l'espace et dans le temps de manifestation du sujet social. Le privé est aussi, ce qui se passe dans le privé est aussi socialisé que ce qui se passe dans le monde public quand on est avec d'autres. Hein. Donc on ne peut pas non plus superposer la question posée sur la nouvelle subjectivité ou pas avec privé-public. Évidemment, l'un évoque l'autre, je suis bien d'accord, on peut y penser, mais ça n'est pas superposable. Il me semble. Hein.
Oui, cette discussion très importante sur nouvelles cliniques, nouvelles structures ou pas. Et c'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand on a un certain âge, parce qu'on a un petit côté alcestueux qui vient avec l'âge, quand même, d'alceste. C'est-à-dire, forcément, après de longues années de fréquentation des humains, il y a un petit côté alceste obligatoire avec le vieillissement. Tant de déceptions, tant de spectacles, etc. Et bon, forcément. En même temps, donc, n'importe quelle personne âgée va discuter et dire « Ah, c'était mieux avant, qu'est-ce que c'est maintenant ?» etc. Bon. Donc on a une pente à dire ça. J'appelle ça la pente alcestueuse. Bon. Mais en même temps, ce qui est épatant, c'est que quand on se replonge dans les vieux textes, on retombe sur Platon, comment la démocratie mène à la tyrannie. Alors, c'est épatant quand même, parce qu'on croirait y voir, avec tout le respect et l'affection que j'ai pour Charles Mellement, on croirait les retrouver. C'est-à-dire quand les élèves ne respectent plus les maîtres, quand les vieux font les petits sympas, cool, enfin, c'est pas cool chez Platon, hein, pour plaire aux jeunes, enfin, tout ça, hein, c'est exactement le discours actuel. Et si vous regardez certaines personnes politiques, vous diront toujours que ça, c'est le discours des réactionnaires depuis toujours, y compris depuis Platon. Néanmoins, je dois rappeler que Lacan a pu dire qu'il était platonicien. D'ailleurs, à vrai dire, son discours sur le discours capitaliste, ça m'amuse un peu, parce que quand même, quand on regarde sa vie et ses façons d'être, faut pas rigoler quand même. C'était un petit peu quand même aussi pour... Enfin, Colette n'aime pas que je dise ça, mais pour plaire à son auditoire, ce qui pour moi n'est pas un reproche, c'est une bonne adaptation au monde de l'autre, c'est pas un reproche. Mais bon, disons quand même qu'il faut bien dire que c'est une phrase unique, comme Colette l'a fait remarquer à très juste titre, et je suis parfaitement ravie qu'elle souligne que c'est une phrase unique, si je ne me trompe, sur le discours capitaliste, et que, en effet, la science, c'est plus important. Donc là-dessus, je trouve que c'est très important, et qu'en effet, c'est vrai que cette mise en avant non-stop comme ça du capitalisme, c'est un peu casse-pied. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Mais cela dit, pour rigoler un petit peu sur la question d'être vu, je me rappelle d'une blague quand j'étais jeune, dessinée par un humoriste. C'était une jeune fille un peu pin-up qui disait « Ah, j'ai la désagréable impression de ne pas être suivie ». C'était très drôle, c'était Shiraz, c'était très drôle. Mais alors, en même temps, il faut quand même dire que maintenant, on est quand même, c'est vrai, dans une situation qui était celle que Lacan avait repris de la schizophrène. Io sono sempre vista. Je suis toujours vista. La vue, vue, passivement vue, un peu l'inverse de la jeune fille probablement hystérique du dessin. Hein. Alors, c'est vrai que là-dessus, même s'il y a le côté classique alcestueux et platonicien de ses remarques sur la société moderne, hein, que moi je trouve plutôt sympathique, je dois le dire, eh ben, malgré tout, c'est vrai qu'on peut se demander quand même ce cas choisi par Lacan, assez bonne anticipation quand même de choisir ça comme schizophrénie. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je suis toujours vue, je suis toujours la vue. Hein. Je trouve que c'est intéressant parce que par exemple, quand tu parles des lettres de motivation, je termine. Une chose qui me frappe toujours quand je reçois des lettres de motivation, je dois dire que personnellement, ça m'insupporte et que heureusement que je n'ai pas à en écrire, hein, plus à en écrire. Hein. Parce que les lettres de motivation, c'est « je suis très intéressée par votre service, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Et après, c'est « je suis formidable, j'ai telle qualité, j'ai qualité relationnelle, je suis intelligent, etc. etc. » On se demande quand même si c'est une lettre pour motiver l'autre ou si c'est une lettre de motivation. Ce côté « simple vista » et puis aussi « lettre de motivation pour l'autre », t'es motivé hein, pour me prendre, pour m'embaucher hein. Je sais plus, il y a quand même un petit côté à l'envers, ou comme tu le dis très bien, je trouve ça très marrant, un petit côté capote anglaise dans notre jargon, parce que nous on appelle ça les capotes anglaises, comme tu le sais, les préservatifs. Hein. Donc le petit côté capote anglaise, n'est-ce pas, que tu soulignes, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire il y a quand même, en effet, une petite inversion comme ça de Io sono sempre vista, on l'est tous, quoi. Tous schizophrènes, quoi. Hein. Et puis, en même temps, c'est la même chose. Donc, et quand même, alors je suis pas du tout bonne, enfin, il me semble que c'est ça, le tort, ou je ne sais quoi, enfin, d'autres le diront mieux que moi, hein. Enfin, que cette structure de continuité, c'est bien quand même celle que Lacan a dit et repris d'autres personnes qui l'avaient déjà pensé, ou la structure du gant kantienne, enfin toute la philosophie a toujours parlé de ça quand même, c'est pas complètement une invention unique, la structure torique ou la structure préservative, je l'appellerais comme ça maintenant, voire capote anglaise, je préfère encore.
Merci pour vos remarques. Sur le fait qu'on peut être seul sans autre au niveau concret, mais on peut être absolument regardé vu par l'autre. Quelqu'un peut-être qui est seul est même plus vu que quelqu'un en public. Et donc, j'ai évoqué les 18e siècle parce que c'est le siècle où c'est vraiment célèbre le fait que tout était fait pour l'autre, tout était lié à l'idée que l'autre regardait le sujet. En privé et en public. Et donc, prenons notre exemple. S'il faut voir, ça sera absurde de dire qu'il n'y a pas de changement dans notre temps. Mais avec cette distinction entre public-privé et espace antérieur, espace public, par exemple, prenons un exemple concret. Un gamin à l'école frappe un autre gamin. Le prof intervient et le gamin explique, et j'ai vu ça pas mal de fois, « Oui, excusez-moi, mais mes parents ont eu une engueulade hier et j'étais très très en colère et donc j'ai déplacé cette colère et j'ai frappé l'autre enfant. » Donc, c'est des choses, je ne sais pas après, mais à Londres, on entend ça. Donc, l'enfant montre... Pour utiliser une expression courante, sa vie antérieure. Évidemment, pour nous, ça n'a pas de sens. Mais des émotions ou une vie affective qui, avant, auraient été dans un espace plutôt privé. Mais est-ce qu'on peut dire par là qu'il y a un changement au niveau du sujet ? Si on distingue le sujet comme refus d'interpellation et le soi comme site des impératifs, et des idéaux sociaux, par exemple, des façons de formuler l'expérience, d'utiliser un langage psy. On entend ça souvent. On reçoit des gens qui expliquent en langage psychanalytique ce que sont leurs problèmes. Et souvent, ils ont raison. Mais ça, évidemment, ça n'a pas d'effet. Donc là, c'est ce que Foucault a vu, c'est la structure de capote anglaise, où il y a une continuité entre vie antérieure et vie extérieure. Il n'y a plus d'espèce privée, mais en même temps, ça n'a aucun effet sur le sujet, comme comprendre structural de refus d'interpellation. Mais ça, c'est un truc très intéressant par rapport au vrai changement. Un des vrais changements là, c'est au niveau de l'éducation, c'est l'absence de violence dans l'éducation. Ce qui, vraiment, dès le début de l'éducation, il y avait une violence entre les profs et les élèves. Ça faisait une partie de l'éducation. Là, c'est interdit.
C'est la démocratie qui mène à la tyrannie depuis Platon. Oui. Et ce que tu dis est très juste. Je suis parfaitement
d'accord et intéressée par ce que tu dis sur, en effet, au Moyen-Âge, c'était la même chose. En effet, tu as tout à fait raison. On a déjà vu ça. Je suis pleinement d'accord avec toi, comme avec Colette. Voilà, il reste que, voilà, une fois de plus, malgré tout, comme butant de Platon, on a un peu peur que la démocratie mène à la tyrannie, même si c'est réac. Et par ailleurs, si quelqu'un ne veut pas prendre la parole tout de suite, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'importance, en effet, de ce qu'on appelle, malgré Deleuze et Lacan, le sadomasochisme, non, puisque le SM a pris sa place, quoi qu'on ait dit Deleuze et quoi qu'on ait dit Lacan, c'est comme ça, on est à une époque SM. Et on est à une époque où, en psychologie ou en psychiatrie, c'est la théorie de l'attachement. Je ne connais pas bien les mots anglais pour attachement. Je sais...
Attachment theory.
Attachment, ok. Je ne sais pas. Hermann, c'était plutôt le grasping, ce qui est très différent. Le grasping et l'attachement, ce n'est pas du tout la même chose, je trouve. Le grasping ou attachment, j'ai besoin de la connaissance en anglais pour voir l'écart. L'écart est grand entre grasping et attachement. Et c'est quand même amusant qu'en même temps, on explique tout par les théories américaines ou anglaises. Je ne sais plus celui qui a commencé sur l'attachement.
Au début, c'était une théorie anglaise.
Anglaise, hein. Comment il s'appelle? J'ai oublié.
Bowlby,
voilà.
Attachment theory.
Voilà, attachment, Bowlby. Et en même temps, on nous parle de l'attachment, de l'attachement. Et en même temps, on est dans Fifty Shades of Grey. Et malheureusement, je dois dire que cette époque me rappelle un peu trop quand même l'époque de Sade, de la manie pro-sadienne, y compris de Lacan, que je n'ai jamais partagée, de cette défense de Sade que je ne partage pas du tout. Et je sais que c'est très réactionnaire de dire ça, mais je le dis quand même. Je conteste vivement ces thèses qui disent que ça n'a rien à voir. Je suis désolée. Il y a eu Sade, il y a eu la passion du tout Paris pour Sade, il y a eu la sympathie pour Sade, y compris chez Lacan. Et ensuite, quand même, il y a le nazisme. Voilà. Donc, alors, évidemment, ça, je sais que c'est une vision très réductrice, mais néanmoins, je vois revenir en même temps la démocratie qui mène à la tyrannie, Fifty Shades of Grey et Attachment. Mais donc, voilà, ça m'inquiète un peu.
Vous l'avez lu, le livre?
Oui, bien sûr. Mais pas de la main gauche, hein, franchement. Hein.
C'est tellement...
Il n'y a, oui, pas, c'est... de quoi, hein. Il y a vraiment pas de quoi.
J'ai visité il y a quelques années ma tante qui est très vieille dans un endroit pour les gens âgés, et elle avait dans sa boîte aux lettres un paquet, et donc on l'a pris, et il y avait un journal, et elle ouvre le journal, et dans le journal il y avait le livre Fifty Shades of Grey. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas du tout embarrassée par ça, par de honte, par ça. Et elle marchait et discutait avec l'autre genre sur ça. Et on peut dire, je ne l'ai pas lu, mais de l'extérieur, on peut dire que ce livre, ça a la structure d'une blague. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui passe d'une personne à l'autre, qui permet... Vous n'êtes pas d'accord?
Ah, pas du tout, non. Alors, comme blague, vraiment, ni c'est pour se branler, ni pour rigoler. Hein. C'est juste débile. Hein. C'est... Si on compare à Histoire d'eau, qui fait partie de mes dadas, hein, et qui tient à la même époque, hein, ça, des compagnies, passion pour ça, des, et histoire d'eau, Polan, hein, Polanerie et compagnie, à Paris, hein, et franchement, 50 nuances de gris, c'est juste débile.
Ma question, c'est, ça peut être débile, mais est-ce que c'est un message sur le code? Est-ce que c'est un message sur le code?
C'est un message sur quand un mec est riche, hein, s'il veut faire un peu de SM, vanille, SM vanilla, ça s'appelle, tu sais, vanilla SM, hein, si c'est un peu de vanilla, vas-y ma petite, il est riche, quoi. Ça, c'est... Franchement, à côté de cette pauvre femme qui est morte anorexique quand Polan est mort et qui envoyait tous les jours son texte à Polan, là, franchement, c'est mon côté incestueux, hein. Vraiment, rien à voir, quoi, quand même. Hein. Je pense pas que...
Moi, je voudrais, au fond, revenir sur la question qu'est-ce qu'on appelle la subjectivité ? Parce que, effectivement, le terme sujet, il vient de loin dans la philosophie. On a Platon, il a tout dit en philosophie. Et tous les philosophes peuvent aller piocher chez Platon, ils trouveront le sujet. Et on peut trouver le sujet platonicien chez nous. Mais le sujet platonicien, c'est pas le sujet de la psychanalyse. Donc, je ne dis pas que d'ailleurs il n'y a que le sujet de la psychanalyse qui soit intéressant, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais dans nos discussions, si on veut prendre le terme sujet au fond au sens psychologique, parce que c'est ça, on n'arrive pas à se défaire de ça, on est des sujets parce qu'on parle et conscient d'eux-mêmes et il nous arrive ceci, on peut décrire si on est vu, pas vu, dans le privé, pas dans le privé, mais ce que Lacan appelle le sujet de la psychanalyse, c'est pas un sujet psychologique ni philosophique. Alors, dans la question des nouvelles subjectivités, si on prend sujet au sens descriptif au total du sujet psychologique, mais bien sûr que beaucoup de choses ont changé et qu'on n'est plus dans les mêmes situations, le monde a changé, bon, etc. Et si on prend le sujet, ce qu'il écrit, est-ce barré, parce que c'est quand même ça, tu dis le sujet refus de l'interpellation, c'est ce que dans le la structure des discours, cette différence, elle se trouve, comme je l'ai expliqué dans ce même séminaire, je crois, ça se trouve situé par la barre entre ce qui est à la place de la production et ce qui est à la place de la vérité. Donc si on le prend au sens fort lacanien, nouvelle subjectivité est impensable en réalité. Ouais, bon. C'est ça. Donc, est-ce que dans la psychanalyse, on continue à s'occuper de ce sujet-là ou est-ce qu'on s'occupe, comme le font tous les thérapeutes du monde, du sujet au sens psychologique? Et il semble bien qu'il y ait un gros mouvement pour s'occuper plus que de celui-là et ne même plus savoir que l'autre, il est... Il existe, hein. Donc dans les discussions, il y a souvent cette espèce de malentendu, parce que sur la description de certains faits, on ne peut qu'être d'accord, en fait. Oui. Alors, évidemment, alors après, on peut se demander, là, on n'est plus dans le S vraiment barré, est-ce qu'on est plus sous le regard maintenant qu'on ne l'était à telle période de l'histoire ou pas? Je ne sais pas. Il y a des miroirs partout. Les miroirs ne sont pas tous des regards. Il y a plus de miroirs, certainement. Je ne sais pas si on est plus regardé. Il faudrait... Là, oui.
Un peu à ce sujet, je conseille les livres de Chamaillou sur la philosophie du drone. Qui explique... Comment on choisit la politique américaine d'aller tuer des gens et comment on choisit qui on va tuer, et peu importe qui on va tuer, peu importe le sujet. Ce qui va intéresser, c'est qui l'appelle, qui le contacte, où il se déplace. Même son identité n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est le profil. Justement, c'est ça peut-être ce qui intéresse aujourd'hui à la gouvernance, au gouvernement. Vous parlez de Foucault. Après la discipline qui était sur le sujet, il s'est intéressé au gouvernement qu'il a appelé sécuritaire, qui est la régulation des normes, des comportements, des masses et la ségrégation par la science. Le sujet n'a que faire, donc on peut s'en occuper. Mais le gouvernement, la gouvernance de ça, n'a plus besoin du sujet.
Partager cette, cette perspective en tant que psychanalyste, que la psychanalyse non seulement reste un recours, mais extrêmement nécessaire, et de plus en plus nécessaire. Hein, ce qui ne veut pas dire que c'est gagné l'affaire, mais de plus en plus nécessaire, ça, ça va de soi. Et il est capital que les psychanalystes ne se transforment pas en psychologues lambda, qui vont soigner les plaies, ce qui toujours possible à ceux qui choisissent de le faire, bien sûr, mais c'est quand même autre chose.
Bien sûr. Ça va mieux en le disant.
D'accord, je voulais juste ajouter là, sur la surveillance. Moi, je trouve extrêmement valide ce que tu dis, en fait. Il est pire de penser qu'il n'y a pas de surveillance que s'il y a une surveillance. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, pas de surveillance? Ça veut dire pas d'autre. Le silence de ces espaces infinis m'effraye, disait le cri de Pascal, quand il dit le silence des espaces infinis m'effraye. Pourquoi? Parce que c'est le ciel vide.
C'est la disparition de cet avion.
Hein, voilà. Bon. Alors là, on fabrique la théorie du complot qui restaure de l'autre, oui, là où il pourrait y avoir vraiment le vide. Oui, et donc, c'est quand même... Cette dénonciation de la surveillance actuelle, elle a plusieurs dimensions, évidemment. Elle a des dimensions politiques, elle a des dimensions au niveau des luttes de pouvoir, au niveau, bien sûr, mais au niveau des individus, au niveau des individus, il me semble que c'est ce que tu dis. D'ailleurs, j'avais fait un article qui s'appelait « L'apocalypse ou pire », qui disait ça. Et je crois que c'est vraiment assuré, ça. Marc, tu veux la parole?
Une question sur le point dont vous venez de discuter, le lien entre...
Oui, c'est une question sur le point dont vous venez de discuter, le lien entre la psychanalyse et l'époque contemporaine. Colette en a parlé à l'instant. Je voulais ton avis, ton témoignage, ton point de vue, justement, à la fois sur les changements de continuité, les changements dans la réceptivité, dans l'époque, la réceptivité du discours analytique, et aussi les changements sur la façon dont nous-mêmes pouvons le faire entendre. Si tu pouvais dire quelques mots là-dessus, à partir de ton expérience et tes réflexions.
Changement de réceptivité au discours analytique.
Et aussi là, les changements peut-être opérés du côté des analystes, j'en sais rien, pour être reçus.
Oui, en Angleterre, la psychanalyse lacanienne, ça marche très bien. Il y a beaucoup de monde, des gens qui ne sont pas satisfaits avec ce que l'autre leur offre. Beaucoup de psychologues, quelques psychiatres, les social workers, pas mal des universitaires maintenant. Donc, au milieu antique, ça marche très très bien. Mais ce qu'on voit dans les milieux non lacaniens, c'est vraiment un mariage entre le discours du marché et soit l'analyse, soit la thérapie. Comme les idées de bien-être, de healing, d'unité, tout ce langage de l'industrie du bien-être devient de plus en plus important et central pour eux. Mais en même temps, les analystes, il y avait beaucoup de discussions dans les dernières années entre les banquiers dans le CTI et les analystes, et dans l'IPA et dans les milieux lacaniens. Et il y avait eu pas mal de demandes d'analyse des gens qui travaillent dans la violence. Moi, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais moi, j'ai eu des cas où les gens sont venus faire un travail et après quelques temps, ils sont partis moins coupables pour la destruction qu'ils vont faire. J'ai eu deux cas comme ça.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Juste quand même pour préciser le même point, quels sont les relais en Angleterre du discours lacanien? Hôpitaux, universités, les relais du discours lacanien.
Les relais, ça veut dire...
Les relais, par quel canot ça passe?
Oui, c'est ça.
Oui, par quel canot?
Les hôpitaux, les universités, les médias...
Ça passe beaucoup par les œuvres de Zizek, qui sont partout. Ça, c'est vraiment partout en Angleterre, ce qui est... je trouve ça très bien. Et... ça, c'est dans la politique, la loi, la littérature, le cinéma, la psychologie, c'est partout. Les gens lisent ça et ils sont très d'accord. À part ça, c'est le réseau de gens. Mais je pense que les travaux de Zizek ont un énorme effet dans le monde anglophone. J'ai eu même un analysant qui est venu à sa séance et m'a dit qu'il veut payer plus parce que le jour avant, Zizek a fait une conférence où il disait que si les gens font l'analyse, il faut payer énormément. Et donc, ça a des effets à tous les niveaux. C'est vraiment, ça a un énorme effet à son discours en Angleterre et aux États-Unis.
Mais là, ça avance dans sa catégorie de mots sur moi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui.
Mais de toute façon...
Oui.
De toute façon, on vient toujours à la psychanalyse sur une position d'illusion. On ne vient pas à la psychanalyse en sachant ce que c'est la psychanalyse et ce que c'est le sujet barré et tout ça. On y vient pour de ce point de vue-là d'autres raisons. Donc que ce soit parce qu'il a lu Zizek qui dit si vous payez plus, vous faites une analyse. Après, s'il fait son analyse, ça n'a plus aucune importance. Donc,
Lacan disait que le surmoi, c'était l'allié de l'analyste. Non,
aussi phare, vous avez un centre de consultation.
Oui, c'est très
important quand même.
Ça, c'est quelque chose qu'on a créé en 2000, un centre de consultation pour les gens qui n'avaient pas, des gens, des chômeurs, des réfugiés, où on offre pas dire des analyses, mais la possibilité de faire une analyse à long terme, sans limite de nombre de séances, etc. Les gens doivent payer, mais ils fixent le prix avec l'analyste. Et on a commencé ça avec l'aide des artistes. Louise Bourgeois a donné pas mal d'argent et d'autres artistes français, américains, anglais ont tous contribué, Sophie Kahl de France. Ils ont donné des œuvres ou d'argent pour que cette clinique puisse être mise en place. Et là, ça fonctionne toujours 15 ans après.
C'est un des relais aussi, les centres de
consultation.
Comment ?
Ça a pu avoir lieu parce que tu en as été, mais tu en as eu l'initiative.
Oui, on a beaucoup travaillé pour que ça se passe. Oui.
Mais ça fait plaisir d'entendre dire que ça va bien pour la psychanalyse en Angleterre.
J'ai peur de dire que ça va bien.
Parce que tu connais, en France, on aime se plaindre.
Oui, oui.
Mais Mais en plus, on n'entend pas beaucoup ça en France. On n'entend pas beaucoup de psychanalystes qui vous disent « ça va bien
hein ». C'est votre mauvais signe.
Ils vous disent « ça va mal, il faut faire quelque chose au mieux ». Ils tentent quelque chose au mieux, mais...
Il y a beaucoup de choses qui se passent très mal en Angleterre, mais dans notre urbanétique, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On fonctionne et on est dans notre groupe. Il y a des gens de beaucoup de milieux, de courants différents. Il y a des milariens, il y a des gens qui étaient formés dans les person-centered therapy qui maintenant font le travail d'Athénien. Il y a des gens des groupes de la louche, des gens de forum. Et donc, on arrive jusqu'à maintenant à bosser ensemble.
On n'a pas du ZIZEC en France.
Hein?
On n'a pas du ZIZEC en France. On a Sophie Kahl éventuellement, mais on n'a pas de ZIZEC.
ZIZEC, il est international.
Il n'est pas français. Il est beaucoup moins connu en France que dans les pays anglo-saxons et américains.
Ça n'a pas pris en France.
C'est pas que ça n'a. C'est ça.
Oui. Ça n'a pas pris en France.
Non, ça n'a pas. En tout cas, ça n'a pas pris de la même façon que ça a pris aux États-Unis. Où il est connu en France. Il a des ouvrages traduits.
Pas par le grand public comme.
Il est passé à France Culture il y a deux jours ou trois jours. Il est passé à la matinale de France Culture.
Mais Colette, quand tu mais... parles de que c'est une nouvelle voix, souvent Slavoj dit à son public ne m'écoutez pas. Il veut absolument que les gens ne prennent pas ce qu'il dit au sérieux.
D'accord. Oui.
Oui, oui, à Paris.
Oui, tu sais où.
Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des séances. Oui, mais c'est une question. Pourquoi ça n'a pas venu en France?
Ah oui, pourquoi ça n'a pas venu en France?
Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de ça.
Oui. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a eu la campagne.
Oui.
Je crois. On ne va pas se lancer là-dedans, c'est un sondage.
Nous, aux États-Unis, on n'a pas eu la campagne.
Oui, oui. Voilà. On est en train de se dire que nous, en France, on a eu la campagne et que c'est pour ça qu'on n'a pas eu ZIZEC aussi présent que dans les pays États-Unis et Angleterre. Et où. Il n'y a pas eu la présence personnelle de Lacan. L'histoire de personnel de Lacan, c'est en France. C'est sûr. Et certainement que la réceptivité aux choses n'est pas la même.
On a eu Dolto. On a eu Dolto qui a eu cet impact en France dans les années 70, quand elle parlait à France Inter. Et,
oui.
Et vraiment, à cette époque-là, tout le monde trouvait normal... De parler de soi et de s'adresser à Dolto ou à quelqu'un qui la représentait.
Oui.
Elle a eu ce rôle public.
Oui, oui.
Ensuite, comme psychanalyste médiatique, il n'y en a pas eu. Il y a eu Gérard Miller, mais c'est plus sur le versant de l'amusement, de l'entertainment, que de l'élucubration comme ZIZEC. Pas du tout pareil.
Oui.
Mais ZIZEC a une notoriété comme Gérard Miller.
Hein?
ZIZEC est plus connu dans les pays anglo-saxons par le public
oui.
que Gérard Miller en France. De la grande époque où il passait à la télé, les radios,
oui,
où il
oui,
était
oui,
le psy
oui,
de service, oui. Zizek est plus connu que lui.
Oui, mais parce que...
Il y a même une revue qui s'appelle Journal of Zizek Studies, mais à mon avis, il n'y a pas en France Journal of Gérard Miller Studies.
L'équivalent, c'est Dolto.
Non,
on a eu Dolto.
Ça se comprend... Ça se comprend absolument. En France, il y a une grande division entre ce qui accepte ou qui vient vers ce qui s'appelle le lacanisme. Alors tous les autres, Zizek, Miller, Gérard Miller, les Miller, ça n'intéresse pas. Bon. Donc il y a un grand trait tiré là-dessus. Et du côté de ce qui vient vers le lacanisme, la voix de Lacan, VOIX, reste présente. Et donc, quand on s'intéresse à ça, on va à la source, on ne va pas au commentateur. Bon. Et donc, indépendamment des autres différences culturelles, cette différence-là me paraît capitale.
Il y a Cyril Nick qui s'est fait une place comme ça, de commentateur des malheurs contemporains.
Oui, enfin, d'accord. Et il y a aussi, comment il s'appelle, Onfray. Si tu cherches des gens qui ont une notoriété... Non, mais je parle des
psys. Onfray n'est pas psy. Onfray se dit philosophe, il n'est pas psy. Mais Cyril Nick, c'est psy.
Il n'est pas psychanalyste, Cyril Nick. Psychologue. Oui, psychologue, oui. Ouais. Bon, écoutez, on entre dans des considérations qui pourraient nous tenir toute la nuit. Hein ? Alors, autant s'arrêter. Et on peut aller boire un verre, puisque en général, nous faisons un petit verre dans la pièce à côté.